Et bonjour à tous. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, comment le numérique a-t-il fait irruption et disruption dans nos modes d'organisation et dans nos manières de penser le travail? On en parle avec notre invité, le sociologue de l'information Patrice Flichy, qui signe au Seuil les nouvelles frontières du travail à l'ère numérique. Il sera avec nous après le journal d'Antoine Mercier à partir de 12h55. Avant cela, la fugue de la metteur en scène Masha Makeyev avec la fuite de Mikhail Bulgakov. Elle part au pays des songes sur les pas des exilés de la révolution russe. Créée chez elle, au Théâtre de la Criée, à Marseille. Cette pièce est à voir en ce moment au Théâtre Gérard Philippe, de Saint-Denis jusqu'au 17 décembre, avant de rejoindre Toulon, puis Lyon et Angers en janvier. Masha Makeyev est notre invitée à écouter tout de suite sur France Culture, ou plus tard en podcast sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Gesbert.
La fuite, les huit rêves de Bulgakov, pièce en quatre actes, les cauchemars éveillés de ces Russes blancs, fuyant la Russie des années 20, l'exil de cette intelligentsia russe aux prises avec la Révolution. Elle relate avec un tragique laconisme leurs incertitudes, puis leur course folle au devant de leur perte, écrit Paul Kalinine en introduction de sa publication chez Robert Laffont en 70, adaptée aujourd'hui et mise en scène par notre invité, extrait.
J'ai l'impression d'être dans un rêve, parfois, je vous jure.
Retrait général. L'état-major est démantelé sur le champ. Repli sur Sébastopol. La Crimée est perdue. Si tu me mens, je transmédie et je te pique.
Bonjour Masha Makeyev.
Bonjour.
On commence en musique. De Bulgakov, on connaît surtout son Maître et Marguerite et Cœur de chien, médecin et écrivain comme Tchekhov. 1920, c'est une date importante pour lui, date à laquelle se déroule toute l'intrigue de la fuite. 1920, c'est pour lui l'année de la rupture. Il doit mettre fin à ses activités de médecin avec l'arrivée au pouvoir des bolcheviks. Il va quitter Kiev pour Moscou et se lancer dans l'écriture. Pourquoi ? Il était trop blanc, Bulgakov, pas assez rouge ?
Je crois qu'il était surtout du... Il était au-dessus, comme Arbatova. Ils étaient au-dessus du rouge et du blanc. Ils étaient dans un ailleurs. Je pense qu'ils avaient envie d'un monde de liberté. Et ce Bulgakov-là, il est ambivalent en même temps. Il a quelque chose... Il réfléchit beaucoup au rapport entre... Il aime Molière et donc au rapport entre le pouvoir et l'artiste. Et en même temps... Il est d'une insolence totale, parce qu'il dit qu'il est à la fois un écrivain mystique et un écrivain satirique. Il est d'une insolence totale parce que lui, l'homo sovieticus et la célébration des vainqueurs, du grand homme, ça ne l'intéresse pas. Il regarde du côté des vaincus. Ce qui l'intéresse, c'est l'analyse du cœur humain dans la défaite. Ceux qui sont défaits, dans tous les sens du terme, et ceux qui sont arrachés à un monde ancien qui s'effondre sous leurs pas. Et c'est ce moment de rupture 20-21, c'est vraiment ce moment de l'exil, où part une espèce de tribu qui mêle non pas des gens favorables à l'impérialisme, pas du tout, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a les premiers révolutionnaires, il y a un mélange il y a l'armée blanche de Wrangel, mais il y a toutes sortes de gens, de civils, d'intellectuels, de poètes, de gens un peu perdus, une espèce de petit monde qui représente évidemment, parce que c'est un auteur dramatique d'un si grand génie qui caractérise chaque personnage, qu'à la fois, par exemple, Golubkov, l'intellectuel, c'est l'anagramme de Bulgakov. C'est lui-même, avec une espèce d'autodérision, il se montre, puis il anime, impuissant, trahissant la femme qu'il aime devant la moindre menace. Et en même temps, Serafima, la très belle Serafima, c'est la Russie, au fond, d'une certaine façon. C'est le dessin de cette Russie, à la fois puissante et belle, évanescente, contradictoire, un peu révolutionnaire. On sent qu'elle est très ambiguë, aussi très ambivalente. Voilà, donc dans chacun de ces personnages,
ouais,
il y a ça.
Il y a toute cette diversité sur scène. Vous l'évoquiez avec Golubkov, le prof, avec Serafima, la femme du vice-ministre du commerce, Korzoukine, le général Kloudov. On va retrouver toute cette galerie de personnages. Et cette diversité sur scène représente assez bien celle de ces Russes blancs qui ont fui, qui sont partis, qui se sont opposés au bolchevisme et qui ne sont pas que des aristos. Il y avait beaucoup d'artistes, des intellectuels, des étudiants aussi, et on ne peut pas les réduire à des nostalgiques du tsarisme à l'époque.
Il y en a veuille. Comme toujours, quand on perd quelque chose en plus, on exacerbe beaucoup ce qu'on a perdu. Donc je pense qu'il y avait des nostalgiques, mais pas beaucoup. Mais il y avait des gens, surtout, des gens perdus qui partaient avec des restes, et c'est ces restes-là qui sont intéressants. Et en même temps, quand on évoque la guerre civile, on évoque toutes les valeurs bouleversées. C'est une espèce de grand manège des valeurs, de grand carnaval aussi. Tout est sans dessus dessous, et ces êtres-là vont survivre avec ça. Mais c'est plein de trahison, c'est plein de renoncement. C'est comme il est médecin, c'est aussi des corps qui souffrent, des psychismes bouleversés. Comme il était morphinomane lui-même aussi, il y a l'étude de Kloudov qui lui est vraiment aussi dans les états de drogue. Il y a la fièvre, il y a le typhus. Donc ce corps aussi raconte beaucoup de choses.
Et face à ces vaincus, comme vous l'évoquez, parce que Bulgakov se place de leur côté, du côté des déclassés, ceux qui sont dans le tourbillon de cet ordre établi, renversé, dans ce texte, on est quand même bien loin du réalisme socialiste, mais face à eux, il y a une horde de sauvages, évoqués notamment dès le premier songe, prêts à en découdre avec tous ceux qui représentaient l'ordre d'avant. Ils font irruption dans ce songe numéro 1, dans le monastère, cette bande de bolchos, ces petits soldats de Lénine. D'ailleurs, le chef, vous l'avez grimé, non? Si j'ai bien vu.
Les acteurs jouent plusieurs personnages, il fallait les caractériser, mais en même temps, il y a des allusions à la peinture de l'époque, oui.
Huit songes construits comme une variation. Vous faites le parallèle avec Shostakovitch, dont on peut peut-être écouter un extrait pour se mettre en musique de sa symphonie numéro 1, qui était composée en 1925 à 19 ans. Il l'écrit à sa sortie du conservatoire. Autour de lui, la contre-révolution continue à essaimer. Monastère, gare, Sébastopol, Constantinople, Paris, ça galope. Pas d'unité de lieu dans votre mise en scène, Macha Makaïev. Il y a fuite, il y a exil. Et le mouvement est permanent dans cette pièce, hein, comme il l'était dans la vie de ces rêveurs déçus.
Oui, c'est une espèce de course en avant. Et la gageure, c'était de raconter le rêve au théâtre et évidemment de raconter les huit songes dans leur singularité, leurs couleurs différentes, et aussi raconter la grande histoire avec un grand H, mais aussi l'histoire de chacun d'entre eux. Mais c'était surtout moi, l'intérêt, le passage d'un songe à l'autre. Au fond, on est dans des univers psychiques. Donc il fallait que ce ne soit surtout pas un songe puis un autre, une espèce de juxtaposition. Il fallait vraiment que ce psychisme se métamorphose et qu'un rêve suscite l'autre et que l'intersonge soit encore du théâtre. Donc, et encore du rêve. Donc c'était ça, il fallait pour se faire un décor qui puisse le raconter, et aussi une troupe qui puisse passer d'un personnage à l'autre, mais aussi d'un état psychique à un autre, donc de passer d'un registre à un autre avec beaucoup beaucoup de souplesse. Et en même temps, c'est une folie que d'écrire quelque chose comme ça, que de nous donner à monter quelque chose comme ça. C'est une folie parce que c'est de l'immatériel qu'il vous donne. Et il y a des didascalies sublimes, extrêmement littéraires, qu'on pourrait lire comme ça dans une lecture tellement elles sont belles, dont il faut évidemment s'inspirer et en même temps dont il faut se détacher. Parce que ce qui est très beau, c'est comme un rêve, c'est-à-dire que c'est en chantier, c'est à peu près insaisissable. Et c'est cet insaisissable qu'il fallait raconter.
Pourquoi, quand il écrit cette pièce, Bulgakov, en 1927, 7 ans après cette année 1920, qui est au cœur de l'intrigue, publiée bien plus tard, en 62, pourquoi lui adopte-t-il le motif du rêve? Qu'est-ce que ça lui permet? Qu'est-ce que ça l'autorise à faire?
Écoutez, à la fois ça lui permet, parce que c'est un grand documentariste, hein, c'est quelqu'un qui lit beaucoup, tous les mémoires qui arrivent des Russes blancs, les premiers écrits, les généraux qui écrivent des tas de choses, comme ça, il se nourrit de tout ça, donc son Chevalier Serafima, au début c'est le premier titre, va se transformer, il s'inspire de personnages très, très vivants, mais lui, d'être dans un rêve, c'est d'une insolence et c'est magnifique, ça le dédouane poétiquement et ça le dédouane politiquement, parce qu'après tout, c'est une ruse de dire, écoutez, moi j'ai rêvé ça, j'ai rêvé qu'on disait ça, j'ai rêvé que c'était quand même très bien, que l'extrême politesse des êtres, c'était très bien, que tel auteur était très bien, que de cette posture politique, c'était... Mais je l'ai rêvé. Et voilà, donc, il se place. Et en même temps, il affirme très profondément la puissance de la littérature, la puissance de la fiction face à la brutalité de l'histoire. Et ça, c'est quelque chose... C'est pour ça que cette pièce nous touche aujourd'hui, c'est pour ça qu'elle est... On se l'approprie immédiatement, parce que évidemment les exils, ça nous parle aujourd'hui. L'exil de nos propres vies, enfin, nos vies comme exil, ça nous parle aussi. L'exil des artistes, parce qu'il y est fait allusion quand même, et des intellectuels qui vont de pensée en pensée, de réalisation en réalisation, pour aller où, pour tomber dans un seau d'eau, comme des petits cafards qui courent sur la table de la cuisine. Donc il s'interroge là-dessus, mais il nous dit que la fiction est la seule possibilité. Et en plus, lui, dans le moment historique où il est tombé, voilà, il y a le Maître et Marguerite, il y a la fuite, c'est le même moment. Il se réfugie dans le fantastique. Et c'est incroyable la confiance qu'il a dans la puissance de la littérature. Je vous dis, c'est comme les Armatova, c'est comme ces gens-là qui, dans cette époque-là, moi j'ai une admiration immense pour ces artistes-là, de l'entêtement, de la résistance. Et en même temps, lui, il ne perd jamais l'élégance qu'est l'humour, il ne perd jamais l'élégance de l'insolence. Il aime la satire, il aime les acteurs, il est lui-même acteur. Et voilà, il y a quelque chose aussi du goût du plateau. Et avec la fuite, c'est formidable parce que c'est pas fini la fuite. Il la met en chantier tout le temps, 3 fois dans l'année 28, puis encore 3 ans après, c'est autorisé, c'est interdit. Chaque fois, il la met en chantier, et chaque fois, c'est interdit même de répétition. Donc il nous laisse une proposition théâtrale où on peut après raconter quelque chose à partir de cela. Et ça, c'est une vraie proposition poétique.
Raconter quelque chose à partir de cela, vous l'évoquez, mais tu rêves, ça ce sont effectivement les mots qu'on entend le plus souvent sur scène, c'est-à-dire que ça lui permet à lui, à la fois, de trouver un cadre pour son propos, loin d'être politiquement correct, un motif, mais aussi c'est pour ces personnages un refuge. Eux-mêmes ne savent pas vraiment ce qui est de l'ordre de la réalité et ce qui est de l'ordre du fantasme, une manière d'entrer aussi dans leur psyché, la fuite. Il l'écrit donc en 27. Est-ce que c'est moins le récit de son exil à lui, de Kiev à Moscou, que son rêve de fuite manquait? Il est coincé à Moscou, oui, dans ces années-là. Il est interdit de quitter le pays, Bulgakov. Est-ce qu'il a eu des remords par rapport à cela?
Non, je pense que... Je pense pas que ce soit un homme de remords. C'est un homme qui fait, comme tout grand artiste, qui fait de ces petits malheurs, malgré tout, quelque chose d'immense. Donc cet exil impossible, parce qu'il rêvait d'aller, de partir en Europe, il demande un visa tout le temps, avec sa femme, tout le temps, et on lui dit, oui, bien sûr, vous allez partir. Mais c'est ça, c'est une forme de la terreur, c'est-à-dire qu'on soulève l'espoir et on l'étouffe doucement. Et donc on lui a voilà, il n'aura jamais son visa. Et en même temps, ce non-exil raconte qu'à l'intérieur, l'exil intérieur, c'est quelque chose de terrible et en même temps de tout à fait inspirant. Donc,
en même temps, on continue à l'autoriser à créer, à écrire, parfois à mettre en scène au Théâtre de Moscou. Cœur de chien sera censuré, la Garde blanche interdite aussi, la fuite impraisentable pendant ces années-là. Mais dans les années 20, il va apprendre à sa manière à contourner la censure et à jouer avec les codes à la fois du théâtre et les codes politiques pour mettre en scène les jours de Turbine, les journées des Turbines, présentées aussi dans ce recueil traduit et présenté par Paul Kalinine chez Robert Laffont, que j'évoquais au début de l'émission, l'appartement de Zoïka, l'île pourpre. Il va quand même pouvoir faire théâtre par moment, mais tout en jouant avec cela. Est-ce que vous vous êtes dit, libéré de la censure, je peux dépouiller ce texte de toutes ces précautions, de tous ces artifices protecteurs, des codes du Vaudeville, est-ce que je pourrais pas en faire et en livrer une version brute aujourd'hui, en 2017, en France ?
Écoutez, la question, toutes ces questions se sont posées et en même temps quelque chose d'assez évident dans une espèce de conversation quand on travaille un tel texte et surtout la plongée dans cette époque, l'histoire, la présence de la grande histoire qui traverse tout, quelque chose aussi qui me bouleversait très personnellement, en fait que j'ai comme ça décodé avec beaucoup de soin et d'attention, j'ai décodé plein d'autorisations, des autorisations poétiques, plastiques, mais aussi l'autorisation du jeu, parfois, parce que lui, il dit « je vois en rêve un monastère » et il aime beaucoup ce dialogue de l'individu qui regarde l'histoire et même avec les acteurs, quelquefois, il quitte l'espace du jeu pour se retirer à un mètre à la face et se mettre un peu avec le public, comme ça, il regarde. Et sans arrêt, il y a cette autorisation qui est là. Et il y a aussi, comment dire, un héritage d'un immense dramaturge qui nous dit « Il n'y a pas de théâtre sans quelque chose de brut, il n'y a pas de théâtre sans quelque chose de l'insolence, il n'y a pas de théâtre sans dire que dans l'ordinaire, il y a quelque chose de flamboyant. Et comme moi, je pense que le théâtre, c'est une célébration, bah c'était, j'ai vu dans la fuite une proposition, oui, à continuer le geste poétique avec les armes du théâtre, c'est-à-dire des choses, au fond, très, très réelles, très concrètes, qui font du bruit, avec tous ces objets, avec...
Avec le rire aussi, parce qu'on y retrouve dans cette pièce la fuite de Bulgakov, le fantastique et le burlesque de l'auteur du Maître et Marguerite, ce sens de l'absurde, ce rire. Vous le mettez en lumière dans votre adaptation aussi. Ça, vous ne l'avez pas, vous ne pouviez pas le lâcher.
Non, mais ça, je ne pouvais pas, parce que c'est aussi pour ça que je l'aime, c'est-à-dire que Bulgakov, c'est quelqu'un qui est du côté... Qui a la profondeur de Dostoïevski, qui a la mécanique comique d'un gogol, et en même temps, il a une insolence, et il a le goût du théâtre satirique. C'est quelqu'un qui allait au théâtre satirique de Moscou. Il sait, pendant 10 minutes, il connaît ces périodes, cette écriture comique de quelques secondes, et il y a dans un même songe, le passage d'un registre à l'autre, on passe du burlesque au drame, quasiment à la tragédie, puis à la grande histoire qui fait irruption, et puis il se moque, il bascule, il se moque de cette grande histoire et de ces grands personnages historiques comme Wrangel, et puis il revient à une proximité. Enfin, il est absolument représentatif de tous ces grands artistes des années 20-30 en Russie, qui déstructurent tout, qui déstructurent leur regard, qui ont sans arrêt des positions différentes pour regarder le monde, et qui le font entendre d'une façon différente dans la même séquence où passer d'un registre à l'autre, d'un regard à l'autre. Il est comme les peintres de son époque, je veux dire, il est Goncharova, il est Lissitsky, il est Malevitch, il est... Et ces gens-là ont réinventé le regard sur le monde. Et lui, à sa façon, sa littérature, c'est ça. C'est-à-dire qu'à l'intérieur d'un songe,
on regarde plein de façons différentes et on écoute l'autre différemment et on est à la fois dans le psychisme et dans la réalité et on entre et on sort, ce qui demande une grande virtuosité chez les acteurs.
La fuite, une fuite du temps aussi, avec Mikhaïl Bulgakov et Masha Makaïev qui mettent en scène ce texte, cette pièce, La Fuite, en ce moment, au théâtre Gérard Philippe de Saint-Denis, avant une tournée dans toute la France.
France Culture, La Grande Table, Olivia Gesbert.
France Culture, midi 22, La Fuite de Bulgakov, une pièce très peu montée jusqu'ici en France. On se souvient de la mise en scène de Pierre de Bouche en 70 avec Antoine Vitesse, qui jouait quoi? Le chef du contre-espionnage?
Oui, surtout il a fait la traduction. Traduction très vitésienne, très belle, très translucide, très de l'ordre de la pensée.
Traduction dont vous vous êtes inspiré, avec celle de Paul Kelmin, avec celle de la Pléiade aussi. Antoine Vitesse, donc, qui joue le chef du contre-espionnage, qui apparaît vraiment dans le songe numéro 3 de Bulgakov, ce troisième rêve de la fuite, et qui compare souvent l'écriture, le théâtre de Bulgakov, notamment dans La Fuite, à la peinture de Chagall. Écoutez.
Ici, il n'y a pas de roman préalable à la pièce La Fuite, mais il y a une pièce qui est, si vous voulez, comme le rêve d'un roman. C'est-à-dire, c'est dans ce sens-là que la mise en scène de Debauche est remarquablement éclairante du propos de Bulgakov, parce que la mise en scène est tout entière, je dirais, au futur antérieur. C'est-à-dire qu'on ne montre pas tant les faits, mais le souvenir ou le rêve plus tard que les personnages de la pièce pourront avoir de ces faits. C'est une œuvre peut-être plus grave que la plupart des autres œuvres de Bulgakov, mais qui est néanmoins toute pleine de cette, je dirais pas humour, mais de cette espièglerie qui caractérise Bulgakov. Il y a toujours le sentiment d'être au théâtre, le sentiment de faire du théâtre, l'aveu qu'on est au théâtre, qui existe dans les personnages, par exemple, c'est très clair que c'est un des personnages de la pièce, à savoir Serafima, qui, à la fin, dit le mot « fin ». Elle le dit dans le texte de la pièce, ce n'est pas un artifice de la mise en scène, ni une cabriole de l'adaptateur. C'est bien Bulgakov qui fait dire par un des personnages le mot « fin ». Je dis ça, c'est un tout petit détail, mais qui me semble très significatif de l'attitude de Bulgakov écrivant une pièce. Les personnages eux-mêmes savent qui sont les personnages d'une pièce de théâtre.
Voilà, Antoine Vitesse, quand vous avez pensé cette adaptation, on imagine que vous l'aviez lui aussi partout en tête avec l'imaginaire de Bulgakov. Il a été votre prof en plus, Vitesse.
Oui, mais je ne connaissais pas du tout ce qu'il disait de la fuite. Et cette idée magnifique, lumineuse du futur antérieur, c'est formidable parce que ça, c'est exactement ça. Une fois de plus, il dit des choses exactes. C'est-à-dire, après tout... C'est aussi exactement ça ce que je ressentais en voyant et en vivant avec les Russes blancs dans ma petite enfance. C'est-à-dire qu'ils étaient tellement sidérés par ce qui s'était produit qu'ils disaient « Mais est-ce qu'on n'a pas rêvé ?» Et donc c'est vrai que la fuite, c'est ce futur antérieur. C'est ceux qui vont dire un jour « Mais c'est pas possible, on a rêvé !» Et ça c'est... Voilà, ça c'est... Je suis toujours évidemment frappée par l'intelligence et la clarté de la pensée de... d'Antoine Vitesse.
Avec Chagall, Bulgakov, on ne peut pas dire qu'ils rêvaient l'un et l'autre dans la même palette de couleurs. En tout cas, quand on pense Chagall, on pense tout de suite plafond de l'Opéra Garnier. Quand on pense rêve de Bulgakov, il y a quand même des couleurs très sombres qui apparaissent dans ses imaginaires. On est proche du cauchemar, en tout cas la torture des esprits.
Oui,
et là aussi,
mais
on
y a
voit
des
plutôt
couleurs,
des teintes gris.
Oui, moi, c'est vrai que moi, j'ai travaillé sur le texte et sur l'adaptation.
Et sur les costumes et sur la scénographie, donc vous avez aussi travaillé les couleurs.
Voilà, mais quand je travaille sur le texte, il est vraiment noir et blanc, vous avez raison. Moi, je pense vraiment le spectacle en noir et blanc. Et après, quand je me mets au travail plastique, c'est très coloré. Et il y a, regardez, dans Le Maître et Marguerite, on saute par une fenêtre, on vole au-dessus de Moscou, il y a les lumières bleues, les lumières vertes, la lampe verte qui revient comme ça de roman et d'œuvre en œuvre. Non, il y a beaucoup de couleurs.
Et
c'est très chagallien. les êtres sont en lévitation, en suspension.
Et vos rêves à vous, Masha Makayev, vos rêves de Russie sont de quelle couleur? Parce que vous l'évoquiez, il y a une histoire personnelle et familiale derrière. D'ailleurs, vos grands-parents, Olga et Georges, sont présentés au début de la pièce avec vous, enfant, au milieu de cette chambre à coucher. On voit votre grand-mère se lever, rêver, tourmentée, là encore, par ce passé, cette Russie qu'elle a dû quitter. Vous rêvez de la Russie en quelle couleur, vous, aujourd'hui?
Aujourd'hui, ça va mieux, mais c'est vrai que j'avais quelque chose comme un point de fixation. De toute façon, il y a le sacré primitif dans l'enfance et il faut en faire quelque chose tôt ou tard. Mais c'est un peu, voilà, c'était le moment. C'était le moment parce qu'il y a eu la fuite qui m'y a autorisé. Mais c'est vrai que cette Russie, c'est une Russie de gens déclassés que j'ai aimé infiniment. Ces êtres qui étaient comme sidérés, qui étaient en place, qui avaient des gestes, des paroles, une façon d'être d'un autre monde qu'ils avaient transporté avec eux. Je me disais, après tout, ceux-là sont bien plus intéressants que ceux qui vont bien. Je les ai beaucoup aimés et en même temps, il y avait quelque chose comme un pacte entre eux et moi qui en passait par une certaine douleur aussi. Donc là aussi, il faut échapper à ça. Et le théâtre, la fiction, c'est aussi fait pour ça. C'est fait pour comprendre, c'est fait pour réaliser. Mais c'est le monde est vivable que s'il est représenté. Moi, c'est pour ça que le théâtre est ma vie. C'est parce que c'est trop difficile s'il n'y a pas la représentation. Et la représentation nous sauve de tout, comme le rêve, après tout.
Mais c'est aussi pour ça que ce théâtre russe, vous l'avez si peu travaillé jusqu'ici, si ce n'est à travers la forme du conte, ceux d'Odessa avec d'Isaac Babel, ou du conte musical, peut-être avec Pierre et le Loup de Prokofiev, mais vous avez peu mis en scène des auteurs russes.
C'est vrai, mais ils m'ont accompagné tout le temps, en fait. C'est une leçon aussi, c'est du théâtre de troupe, écrit pour une troupe et pas pour une suite d'individualité. Donc il y a des règles du jeu très particulières. Il fallait pouvoir mettre aussi en place les règles du jeu. Et puis ce théâtre total, parce que ce théâtre russe, moi je peux pas l'entendre sans la musique, sans les lumières. Et là on a fait un travail formidable avec Jean Bellorini et ses lumières qui sont vraiment des lumières de... j'allais dire dramatique dans le vrai sens du terme, et puis les sons, et on a travaillé la musique, mais les sons, on a travaillé avec Sébastien Trouvé, qui vraiment est un architecte sonore, c'est-à-dire que le décor, il serait tout plat sans ce son-là. Évidemment que la lumière donne les volumes et la folie, et travaille aussi le mouvement du décor, mais voilà, tout ça est un assemblage, mais bien sûr que ces auteurs... et les romanciers, et les dramaturges. Mais c'est vrai que j'avais une espèce de réserve, parce qu'il fallait que j'en passe par quelque chose de très personnel.
De la musique, des lumières, mais aussi de l'opéra, que l'on retrouve dans cette mise en scène de La Fuite par vous, Masha Makayev, et de la danse jusqu'au 8e songe. Merci beaucoup à vous. La Fuite est donc à voir en ce moment du côté de Saint-Denis, au théâtre Gérard Philippe. Ce sera jusqu'au 17 décembre, puis dans 3 villes de France, en tout cas pour l'instant, Toulon, Lyon et Angers. Ce sera en janvier. Merci beaucoup à
Merci
vous.
Merci beaucoup.